totalise tout de même presque 10 milliards de dollars, mais c'est son plus bas niveau depuis 2019.
Merci beaucoup, Cécile Mérieux. Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Christophe Guillouy, il publie « Métropolia et Périphéria, un voyage extraordinaire », c'est chez Flammarion.
L'opposition entre la ville et la campagne n'est pas nouvelle, ces deux mots ont d'ailleurs un petit peu vieilli, ville et campagne, renvoyant un certain équilibre à des réalités esthétiques et pittoresques, rien à voir avec la métropole et la périphérie. La première colonise, domine, relègue la seconde. La périphérie est une sorte de banlieue dans tous les sens du terme, économique, intellectuel, culturel, un peu comme la Lune est un satellite de la Terre. D'ailleurs, Christophe Guillouy utilise la métaphore astrale dans ce qui ressemble à une sorte de fable ou de satire. L'appropriation du monde par la métropole est un trait marquant de notre époque et ce monde prend un visage orwellien quand la métropole, à coups de ZFE et autres DPE, devient une machine à exclure. Christophe Guillouy s'est fait connaître avec la France périphérique et donc avec Métropolia et Périphéria. Il entreprend ce que vous avez appelé donc un voyage extraordinaire. C'est surtout, donc, je le disais à l'instant, une satire plus idéologique que géographique. Bonjour Christophe Guillouy.
Bonjour.
Vous allez sur un terrain qui ressemble un peu à celui de la fable, là, non ?
Complètement. C'est-à-dire qu'il y a un constat que j'ai fait, c'est que finalement, ça fait 20-30 ans qu'on produit des rapports, des cartographies. Les politiques n'ont jamais été aussi inondées de data. On connaît tout sur tout, on sait tout sur tout. Et pourtant, ils sont de plus en plus aveugles. Et ce constat m'a fait réfléchir à une chose, c'est que finalement, on n'a pas pris la mesure de ce qui était le plus important dans l'organisation territoriale et économique d'aujourd'hui. C'est le grand schisme culturel qui est en train de se réaliser, qui s'est réalisé entre ce que j'appelle Métropolia, qui est finalement la métaphore non seulement de la grande ville, mais aussi, on va dire, du modèle globalisé, de ce grand marché, de ces catégories supérieures, bon, qui sont quand même très dans le consumérisme, le nihilisme et parfois l'égotisme. Et puis, cette France périphérique, c'est Périphéria, parce que, en fait, Périphéria Métropolia, c'est le modèle occidental, c'est pas seulement franco-français. Et on a bien là deux planètes qui ne se parlent plus et surtout ne se comprennent plus. C'est pour ça que la métaphore des deux planètes, pour moi, était quasi évidente. Elle permet de souligner le grand schisme culturel qui est à l'œuvre partout en Occident, et derrière, quand on tire le fil, qui explique aussi la crise démocratique et le grand basculement culturel qu'on est en train de vivre ici et ailleurs.
De quand le datez-vous, Christophe Guillouy ?
Oh, c'est les années 80. On peut dire qu'à partir des années 80, il y a un choix qui est fait. Alors, qui n'est pas celui de massacrer la classe moyenne et les classes populaires. Voilà. Qui est simplement de se dire, bon, finalement, on a un modèle économique qui est en train d'évoluer. La Chine, l'Inde va fabriquer nos jouets, nos objets et finalement faire le boulot. Nous, on va se concentrer sur autre chose, sur le tertiaire. On va se concentrer dans les très très grandes villes. Et puis finalement, la classe ouvrière va disparaître avec la désindustrialisation. C'est pas très grave. Tout ça va muter. Les gens vont se transformer en cadres supérieurs et vont tous se concentrer. Parce que la métropole a été l'horizon indépassable. Hein. Je me rappelle qu'il y avait des cartes de la Datar. Donc, années 80, qui était déjà en train de nous expliquer que voilà, tout allait se concentrer comme ça.
Ça n'existe plus, la data ?
Ça n'existe plus, mais j'allais dire, finalement, la technostructure a repris cette représentation-là. Ce qui est très important, c'est de se dire, bon, on n'a pas un modèle qui dysfonctionne, on a un modèle qui a créé beaucoup de richesses. C'est pour ça que ça a été très compliqué de le réformer. C'est encore très compliqué de le réformer, parce qu'il y a beaucoup de richesses qui se concentrent notamment dans les grandes métropoles, où se concentre l'essentiel de l'emploi. Mais c'est un modèle qui ne fait pas société. Pourquoi il ne fait pas société ? C'est que ce que j'appelle périphéria, c'est évidemment, parce que les gens ne comprennent pas, et vous avez eu raison de rappeler, c'est pas l'opposition ville-campagne, hein, évidemment. À périphéria, il y a des villes, il y a des villes moyennes, il y a des petites villes. Donc l'opposition n'est pas urbain-rural. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait cette carte de la France périphérique. C'était l'idée de faire exploser la représentation de l'INSEE qui est très trompeuse, qui laisse à entendre que finalement, il y a quelque chose de très marginal, un truc qui s'appelle le rural, avec le village gaulois en voie de disparition. Et puis tout le reste. Non, c'est pas comme ça. La majorité est bien sur Périphéria et la majorité gronde. Et d'ailleurs, j'avais écrit, c'était il y a plus de 20 ans, les contestations sociales, politiques, culturelles viendront de Périphéria. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors évidemment, aux Gilets jaunes, mais pas seulement. Si vous êtes en Grande-Bretagne, vous avez pensé au Brexit. Évidemment, le Trumpisme. Quand vous regardez la carte électorale aux États-Unis, c'est la victoire de Periferia, mais alors mais à puissance 1000. Il n'y a plus que des petites lumières voilà, qui sont en train de s'éteindre, qui sont les quelques métropoles qui concentraient le vote Biden. Mais on peut faire exactement le même ratio ici en France. Hein. Vous avez finalement quelque chose qui est très majoritaire, et j'insiste beaucoup
mais
sur...
Mais qui n'a pas le pouvoir.
Qui n'a pas le pouvoir. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, les classes populaires et moyennes ne vivent pas à l'eau où se crée l'emploi. Bon, ce qui est quand même un petit problème. Mais surtout, sont des catégories qui aujourd'hui ne sont plus représentées par les partis politiques, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui ne sont plus représentées culturellement. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que la représentation culturelle de ce que j'appelle la majorité ordinaire. D'ailleurs, c'est très drôle, c'est quand vous parlez de majorité aujourd'hui, on vous regarde avec des grands yeux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La majorité n'existe pas. On a intégré finalement le langage finalement de l'entreprise, hein, managériale, tout est segment, tout est panel, tout est pratiquement, c'est publiciste qui nous fait la représentation du monde. Non, il y a encore une majorité de gens qui ont des valeurs, qui défendent un mode de vie, qui sont dans le 21e siècle. Parce que là encore, quand je parle de ça, on me dit « Oui, mais alors tu es en train de me parler du siècle d'avant ». Non, non, je parle bien des catégories modestes, populaires d'aujourd'hui, du 21e siècle. Je parle
mais qui n'ont pas de visage, ces gens.
Qui n'ont pas de visage parce qu'elles n'ont pas de représentation, ni politique, ni culturelle. C'est la première fois dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappé d'une chose, c'est que, par exemple, vous prenez aux États-Unis, Trump gagne sans intellectuels, sans le monde de la culture. Il n'y a personne. Je veux dire, c'est la première fois que vous avez le monde culturel, les élites culturelles qui tournent le dos, et leur politique aussi, qui tournent le dos à leur propre peuple. Et vous voyez, on parle beaucoup de l'effondrement de l'Occident. Alors, bon, la Chine, l'Islam, bon, il y a plein de réseaux internes, externes, bon. On oublie de dire une chose, c'est qu'une société ne peut vivre et survivre que si elle se nourrit à la sève de ce qu'elle est. Et la sève, c'est les gens. Qui font la société. Vous voyez, par
les
exemple,
gens ordinaires.
Les gens ordinaires, c'est-à-dire que les gens ordinaires, on les a mis un peu en avant au moment du Covid. On parlait des premiers de corvée. Et moi, j'ai dit, c'est pas seulement les premiers de corvée. Ces gens portent la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation, c'est pas seulement les grands hommes. Certes, il y a la grande littérature, il y a la grande culture, tout ce que vous voulez, il y a la religion. Bon. Mais qui porte les valeurs concrètement dans la société ? Ben, la multitude. Et si vous tournez le dos à la multitude, vous vous coupez de ce qui alimente des représentations positives de la société. Et on en est là aujourd'hui, et c'est pour ça que moi je dis que l'effondrement de l'Occident aujourd'hui, ce sont des élites qui se sont enfermées donc à Métropolia, en l'occurrence, et qui n'ont plus de lien avec ce que sont les gens ordinaires. Et les gens ordinaires sont ceux aussi qui portent les valeurs de la société.
Est-ce que vous estimez, Christophe Gullet, que Donald Trump représente la revanche justement de ces périphéries américaines et donc représente en quelque sorte un basculement du pouvoir, ou au contraire, Elon Musk et Donald Trump représentent un visage du néolibéralisme qui veut au contraire des cités-États pour les riches, qui veut au contraire accroître l'isolement des riches par rapport au reste, en particulier en libérant les énergies des riches contre l'État?
Alors, déjà, moi je ne crois pas à l'homme providentiel, encore moins à l'homme providentiel américain. Je suis français, donc Trump et Musk...
Mais c'est vous qui le citez.
Bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. Les gens se servent de Trump pour dire nous existons. C'est que Trump est la marionnette de la majorité ordinaire américaine.
Et pas l'inverse. Hein.
Et pas l'inverse. C'est-à-dire que... Et ça veut dire... C'est très important. Ça veut dire que... parce qu'on a toujours tendance à imaginer que... Alors ça, c'est très idéologique, finalement. Il y aurait le peuple qu'il faudrait guider. Alors c'est, bon, voilà, c'est très présent, d'ailleurs, à gauche.
C'est très présent dans votre essai. Hein.
Oui, bien sûr.
Quand vous écrivez notamment « Le politmétro est un état dans l'état, il forme l'ensemble de la nomenclatura, ses directives primées sur celles de tous les ministères, une police des mœurs », vous parlez même de police politique. Ça va quand même très loin, on n'est quand même pas en Union soviétique, Christophe Gullet.
Bien sûr, alors, il s'agit d'une fable, donc on est pas... je suis dans la caricature, évidemment, mais l'idée, c'était de dire, voilà, on a des représentations, aujourd'hui, géographiques, culturelles, qui sont de plus en plus homogènes. C'est-à-dire que, quand vous prenez l'organisation des territoires en France, il y a une technostructure, qui a appuyé sur le bouton dans les années 80 et qui est resté sur la même représentation. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de l'aménagement du territoire. Par exemple, vous prenez les trains. Hein,
ou l'autoroute A69.
Ou l'autoroute A69, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez en fait une technostructure qui a travaillé sur des cartes. Et alors, c'est pour ça que je parlais de la data tout à l'heure. On est sur du temps long. Avec cette idée que finalement, ce qui était, moi je me rappelle très bien de cartes qui ne représentaient que les grandes concentrations urbaines. Entre les grandes concentrations urbaines, il n'y avait plus rien. Et d'ailleurs, ça a été aussi après, dans les années 2000, la mode des anamorphoses. Hein. Vous savez, ces cartes déformées où on a l'impression qu'il y a des gros machins.
Marseille est très proche de Paris.
Exactement. Voilà. Donc entre, il n'y a plus rien. Sauf que le entre, périphéria, est majoritaire. Vous voyez le petit problème. Sauf que si on suit ces cartes, vous allez fermer 30% des gares ferroviaires, puisque ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit.
Ça a été le cas.
Ça a été le cas. Vous allez fermer des services publics, parce qu'il n'y a personne. Vous voyez, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, on a parlé de la France du vide. C'était assez, assez frappant. Moi, je dis que ce n'est pas la France du vide, c'est la France du plein. C'est la France, effectivement, très dispersée, mais on est dans une France majoritaire.
Mais il y avait déjà le désert français d'Alfred Sauvy.
Oui, mais bien sûr. Mais là, on est sur... Et en plus, toutes ces représentations, France du vide, désert français, etc., etc., c'était assez logique, puisqu'on était au moment de l'exode rural, etc. Donc il y avait vraiment cette idée que finalement, on allait tous se concentrer dans les villes. Ça, c'était assez logique. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça qui se produit. On est plutôt sur un exode urbain. Je rappelle quand même une chose, des chiffres importants. Les gens quittent Métropolia. C'est-à-dire que Métropolia est un modèle qui n'est plus un modèle.
Vous le racontez, c'est-à-dire ça ne produit plus rien en réalité, ça se nécrose.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une société sans... par exemple, c'est drôle parce que quand je fais mes analyses, on me dit mais tu as un problème avec les élites. Moi, j'ai aucun problème avec les élites, j'ai un problème avec les élites d'aujourd'hui. Contemporaine. Il y a toujours eu un lien positif entre les élites et le peuple. Ce qu'on a appelé le gaullo-communisme était quelque chose de très rationnel avec des élites au service du bien commun. C'était, voilà. Mais vous prenez l'élite culturelle, vous prenez Renoir ou d'autres, il y avait une connexion avec ce qu'est le peuple. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'une grande civilisation et les grandes œuvres, vous prenez Dostoïevski, vous prenez Céline, vous prenez Jack London, qu'est-ce que c'est que ces grands auteurs ? Ce sont des auteurs qui s'alimentent à ce qu'est la vie ordinaire. Et qui, je veux dire, Dostoïevski, quand il écrit, il parle de l'âme, on est dans quelque chose de très métaphysique, et en même temps, il y a un amour de la paysannerie russe qui est incommensurable. Quand Céline fait rentrer le petit peuple dans son cabinet médical, il s'auto-alimente, il critique, il raille, mais il s'auto-alimente, etc. Vous voyez, cette connexion-là a disparu. Et c'est ça qui est pour moi le plus important.
Sauf avec Houellebecq, éventuellement.
Alors Houellebecq, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui décrit Métropolia, avec ce que deviennent les catégories supérieures de Métropolia. Il n'a pas de connexion réelle avec Périphéria. C'est ça, mais j'en ai parlé avec lui, etc. C'est quelque chose d'assez frappant. C'est un très bon... ces représentations de la bourgeoisie d'aujourd'hui sont parfaites, mais ce sont des représentations de métropoliens.
Christophe Gulli, sur l'A69, vous avez un avis ?
Alors là, typiquement, voilà, vous avez la 69, c'est comme la ZFE, c'est-à-dire que vous avez une technostructure, alors en l'occurrence, bon là, c'est un jugement, mais qui ne prend absolument pas en compte la vie réel des gens sur place. C'est-à-dire que la 69, il y a un besoin des gens qui veulent circuler et on leur dit c'est terminé, pour X raisons. Mais vous allez prendre... Et d'ailleurs, c'est toujours des raisons environnementales, c'est toujours très positif. Hein, la ZFE, c'est toujours... Sauf que, à la fin, vous avez... C'est pour ça que je parlais de citadelle quand je parle de métropolia, c'est-à-dire que ces citadelles sont en train de verrouiller tout. La ZFE, c'est ça. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a une peur qui est en train de se développer à Métropolia. La peur, vous voyez, par exemple, actuellement, on parle beaucoup de l'instrumentalisation de la peur par le pouvoir, etc. etc. Je crois que le pouvoir a d'abord peur, non pas de Poutine, mais du peuple. Je veux dire, c'est ça qui est le plus frappant. Et c'est un point qui est vraiment qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que actuellement, Métropolia perd la main dans ses représentations. Les gens s'autonomisent, ne croient plus au discours d'en haut. Et ce qui est en train de se produire, c'est un basculement culturel qui va entraîner des changements politiques majeurs.
C'est-à-dire ?
Ils sont en train de le comprendre. Ils sont en train de le comprendre.
Et c'est
pour ça
qu'il y a
une sorte de... En 2027 ou après. De toute façon, la mécanique est enclenchée. Quelle forme ça prendra, j'en sais rien. Est-ce que ce sera une forme sociale, type gilet jaune, politique, type populiste, peu importe. Mais la mécanique est enclenchée. Elle ne peut pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la société, ce sont les gens ordinaires. Vous ne pouvez pas faire une société, aucun modèle au monde, même totalitaire, ne peut tenir s'il ne sert pas l'intérêt du bien commun.
Pour peu que ces gens ordinaires se reconnaissent justement quelque chose de commun. Or, si vous atomisez la société en communautés antagonistes, ce qui peut être aussi un calcul dans le cadre d'un contrôle social assez bien vu, vous pouvez quand même encore diviser pour régner.
Bien sûr, mais c'est ça le jeu des représentations segmentées. C'est ça le jeu actuel. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est toute la critique du wokisme et compagnie. On oublie toujours une chose, sans Nike et McDonald's, il n'y a pas de wokisme. C'est-à-dire que tout ça sert des intérêts très profonds. Et d'ailleurs, vous avez
c'est
vu
en train
ce qui
de changer
s'est
quand
passé.
Même.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec Zuckerberg et Meta, etc.
Disney, etc.
Disney, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le capital dit « Ok, c'est plus rentable, on change ». Voilà. Et donc c'est tout bêtement ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un retournement. En revanche, voilà, est-ce que Metropolia va accepter ce changement de paradigme, ou est-ce qu'elle va se claquemurer ? Et pour moi, la ZFE, c'est vraiment ça. Je ferme la citadelle à double tour, et à la fin, peut-être que Paris, New York et Londres demanderont leur indépendance, hein. C'est pas impossible.
Un dernier point, Christophe Gueulier, avant de se quitter. Que pensez-vous de l'appellation « les territoires » ?
Terrible. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à faire des études de géographie, d'ailleurs, c'est de la géographie humaine, donc c'est l'interaction entre une population, des hommes et un milieu. Et j'ai eu un diplôme de géographie territoriale et urbain. Il y a une désincarnation. Le territoire, c'est un mot que j'essaie de ne pas employer, qui ne dit absolument rien.
Merci beaucoup Christophe Gueulier, et je renvoie à Metropolia et Periferia, ce voyage extraordinaire publié aux éditions Flammarion. Je rappelle que vous êtes géographe, consultant, merci, et essayiste bien sûr. À bientôt.
Merci.